avec Frédéric Rivière, nous recevons pour ce débat Laetitia Avia, députée de Paris et porte-parole de La République En Marche. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas Bay, député européen et vice-président du Front National. Bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Moral, député européen et membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour.
Bonjour.
RFI.
Édition spéciale.
Arnaud Pontius. Frédéric Rivière.
Et bonjour à tous les trois. Un petit mot pour commencer sur le ton de cette interview qui a été présentée comme un exercice inédit. Les deux journalistes ont apostrophé Emmanuel Macron sans ménagement, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains y voient un salutaire renouvellement de l'exercice, d'autres un abaissement de la fonction présidentielle. Laetitia Avia, vous qui représentez la majorité, le parti d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez été parfaitement à l'aise avec le ton de cet entretien ?
Disons que je n'ai pas eu de difficulté particulière avec le ton, mais plus avec la forme, puisqu'il ne s'agissait pas d'une interview, mais bien d'un débat. Quelle est la difficulté lorsqu'on est en présence d'un débat, c'est que
ça n'a pas
chacun...
été présenté comme ça.
C'était
une interview, théoriquement.
C'était censé être une interview, ouais. Et c'était censé être une interview à destination des Français. Ce bilan, cette première année du quinquennat, ouais. Voir ce que le président de la République a fait, pourquoi, où est-ce qu'il va. Lorsque l'on est en présence d'un débat, chaque personne autour de la table finalement s'intéresse davantage à son propre propos. Et lorsque donc des journalistes sont dans la posture de personnes en débat, elles s'intéressent davantage à leurs questions qu'aux réponses, et c'est dommage pour ceux qui écoutent.
Je vais poser la même question aux deux autres invités, mais d'un mot tout de même, quand l'un des deux intervieweurs, Jean-Jacques Bourdin, demande au président de la République que d'ailleurs il n'appellera jamais Monsieur le Président.
Si, une fois au début, Frédéric, j'ai vérifié. Il lui dit Monsieur le Président.
Bon, mais enfin très peu. Il était très économe de l'expression. Quand il lui demande s'il n'est pas dans une illusion puérile de toute puissance, ça ne vous pose pas de problème cette question-là?
Mais bien sûr que si, mais on voit bien ici encore, et c'est ce que je vous disais, c'est que chacun était dans un exercice, ouais. Où chacun essayait finalement de valoriser son propre propos et de pouvoir se démarquer finalement dans ces petites joutes verbales, en oubliant le téléspectateur, en oubliant le français, en oubliant qu'il fallait mettre en lumière un certain nombre d'éléments de la politique nationale et internationale.
Ça n'a rien de surprenant, et c'est ce que venait chercher Emmanuel Macron, c'est lui qui les a choisis, Plenel et Bourdin. Ils savaient bien ce qu'ils allaient faire, ils savaient bien quel type de spectacle politique et médiatique il allait créer ce soir-là.
Il savait qu'il allait se retrouver en face de personnes qui allaient lui donner du fil à retordre, c'est certain. Et ça, il n'y a pas de difficulté sur ce point-là.
Il les connaît, les a pratiqués.
Après, je pense que l'exercice est allé trop loin en ce qu'il a omis la présence de personnes qui ont besoin aujourd'hui d'explications des Français. C'est cet élément-là seulement qui me dérange, pas tant le reste.
Alors, même question sur le ton, Nicolas Bay.
Je crois qu'en effet, Emmanuel Macron a choisi ses intervieweurs, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise sur la manière dont ça s'est déroulé. Ce qui est vrai, c'est que il a été peut-être un peu plus malmené, un peu moins de complaisance que dans ce genre d'interview habituellement. Et du coup, on l'a senti à bien des moments mal à l'aise, fébrile, agacé, peut-être même énervé. Il y a des moments où c'était un peu la cacophonie générale, il faut bien le dire. Je pense qu'il y a eu des moments où il y a beaucoup de téléspectateurs ou d'auditeurs qui ont dû zapper. Après, sur le fond et d'une manière un peu plus générale, on avait surtout le sentiment qu'il était dans la justification plus que dans la volonté de répondre aux attentes des Français. Il justifiait des choix politiques, des choix idéologiques finalement, et sans une grande préoccupation de ce que les Français attendent de la politique qu'ils devraient mener.
Emmanuel Morel, est-ce que la pugnacité ne peut pas se faire sans une forme d'agressivité?
Moi, je crois surtout qu'il y a une stratégie de communication derrière tout ça. Il y a une fascination d'Emmanuel Macron pour les États-Unis d'Amérique, et donc et ce mythe de l'interview à l'américaine où le président se fait malmener, bousculer par des interlocuteurs agressifs. Donc il y avait très clairement une volonté de faire contraste avec l'interview beaucoup plus complaisante de Jean-Pierre Pernaut quelques jours avant. Je pense qu'il a considéré qu'avec des intervieweurs comme Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin, il serait mis en avant comme, vous venez de le dire, comme homme pugnace. Donc c'était une sorte de mise en scène. Le problème, c'est que quand vous avez trois personnalités très égotiques sur un même plateau, qui ont toujours envie d'avoir raison, et les questions sont aussi longues que les réponses, et en effet, ça donne un débat plus qu'un entretien traditionnel, on perd un peu les téléspectateurs en route.
Vous êtes tous les trois d'accord là-dessus.
Oui, mais je pense que c'est important. Mais parce
bien
que
sûr,
quand même,
bah, oui.
deux heures et demie d'émission,
c'était pour faire un bilan.
Pour faire le bilan de quasiment un an de présidence Macron, sans que jamais vraiment on s'adresse directement aux principaux intéressés, c'est-à-dire les Français, moi, c'est ça qui me pose problème. Et je ne suis pas sûr, on retiendra d'ailleurs, regardez les commentaires depuis ce matin, on retiendra beaucoup la forme, on parle quasiment pas du fond, d'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'annonces et pas grand-chose de nouveau.
Alors justement, Laetitia Avia, est-ce que vous avez appris quelque chose lors de cette interview présidentielle, à part que votre président est un boxeur?
Je savais déjà que c'était quelqu'un qui sait défendre sa politique avec toutes ses tripes.
Ouais. Moi, j'ai
pas d'éléments à apprendre puisque, encore heureux, je suis porte-parole de La République En Marche.
Certes, donc vous êtes censé être au courant avant nous, c'est ça?
L'idée, c'est d'expliquer, et dans ce débat, Emmanuel Macron s'exprimait, lui, vis-à-vis des Français, et lui expliquait ce qu'il disait aux Français. Donc, il a rempli sa part du job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a, dans les capacités qui lui étaient données par ces deux intervieweurs qui, eux, étaient plus dans le débat, dans l'insinuation, etc.
Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'on peut venir à la télévision pendant 2h30 avec zéro annonce?
Ah oui, on peut venir.
On peut venir en ayant rien à dire de nouveau.
Alors, c'est pas ça. Non, vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la sphère publique depuis 20 ans, 30 ans, comme ses prédécesseurs. C'est quelqu'un qui a toute une histoire à reconstruire aussi avec les Français. Et c'est ça qui est important. On en est, je crois, à la quatrième interview depuis son élection. Ce sont des moments qu'il faut multiplier parce que les Français ont besoin de le comprendre, ont besoin de comprendre où il va, comment il pense. Et en cela, il a rempli parfaitement l'exercice, oui.
Alors, on va peut-être aborder quelques-uns des dossiers qui ont été évoqués hier, et celui d'ailleurs par lequel l'entretien a commencé, la Syrie, Nicolas Bay, sur les bombardements donc que la France a conduits en Syrie. Le président de la République a affirmé que la France avait la pleine légitimité internationale pour intervenir en Syrie. Est-ce que cet argument vous a convaincu?
Non, il ne m'a pas convaincu parce qu'il n'y a évidemment pas de légitimité puisqu'il n'y avait aucun mandat de l'ONU, il n'y a pas eu de débat public, pas même à l'Assemblée nationale, et donc c'est une décision unilatérale d'Emmanuel Macron.
Mais il a défendu l'idée qu'il y avait trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sur cinq qui étaient associés dans cette opération et que par conséquent ça donnait de fait une légitimité.
En réalité, il y a une décision américaine et ensuite un alignement docile des Britanniques et de la France sur cette position américaine pour aller frapper la Syrie. Moi, je crois que cette décision, ces frappes, ne correspondent ni aux intérêts de la Syrie, ni et du peuple syrien, ni aux intérêts de la France et du peuple français. Et c'est en cela que c'est une vraie faute politique. Que le régime de Bachar al-Assad soit critiquable, c'est incontestable, mais il y a des dizaines et des dizaines de régimes très critiquables partout sur la planète. Mais le fait d'aller frapper le régime syrien au moment où le régime syrien poursuit une offensive avec un certain succès contre les factions islamistes, dont Daesh, mais pas seulement Daesh, eh bien, c'est évidemment rendre service à ces factions islamistes.
Nicolas Bay, si on se place du point de vue de la morale géostratégique, si le régime syrien a frappé avec des armes chimiques son peuple à Douma, est-ce que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, est condamnée à ne rien faire?
D'abord, il y a d'autres manières d'agir que des frappes telles qu'elles ont eu lieu ces derniers jours. Mais d'abord, à ce stade, il n'y a aucune preuve.
C'est-à-dire que quand le président de la République dit hier soir, j'ai des preuves.
Oui, mais à ce moment, il faut les sortir. Quand on dit ça, quand on dit qu'on a des preuves, il faut les produire. Alors, il peut y en avoir certaines qui ne sont pas, qui sont difficilement présentables.
De façon publique, oui.
Voilà, mais il faut quand même fournir des éléments. À ce stade, il n'y a aucun élément de preuve qui a été fourni. Et j'ajoute qu'il y avait un certain nombre d'enquêtes qui étaient programmées, qui étaient sur le point de débuter, et il n'a pas pris la peine d'attendre leur conclusion. Donc, je pense qu'il y a une volonté un peu fébrile de manifester une volonté, une force, une puissance. En réalité, ça contribue à discréditer la parole et le poids de la France sur la scène internationale. On a vu que ces positions très va-t-en-guerre, on l'a vu avec la Libye et Nicolas Sarkozy, ça ne va évidemment pas dans l'intérêt de notre nation, et ça ne va pas non plus, ça ne permet pas la stabilisation de ces pays-là, puisque quand on a frappé la Libye, le régime de Kadhafi était sans doute très condamnable aussi. Le résultat, c'est qu'on a mis les islamistes au pouvoir et qu'aujourd'hui, on a un marché d'esclaves à ciel ouvert en Libye.
Emmanuel Morel, sur la Syrie.
Vous savez pourquoi il a parlé de légitimité ? Parce qu'il ne pouvait pas parler de légalité. C'est juste pour ça. Parce qu'en effet, c'est une intervention qui n'est pas conforme au droit international, dans le sens où il n'y a pas d'éléments concrets, dans le cadre des Nations Unies en tout cas, qui justifiaient de telles frappes. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'avait pas l'air convaincu lui-même de l'efficacité d'une telle opération. Parce que ça m'intéressait, moi, sa justification. Après tout, c'est important quand même. Il engage la France avec la Grande-Bretagne et les États-Unis dans une opération militaire.
Mais pas un acte de guerre, a-t-il précisé.
Oui, alors cette distinction est un peu spécieuse, vous en conviendrez. Parce que quand vous bombardez un pays, vous pouvez toujours dire
on n'a pas déclaré la guerre à la Syrie.
Oui, enfin, c'est quand même sur un territoire identifié.
Qu'il indiquait ne pas être lui-même convaincu, puisqu'il a dit avec force les éléments de production et de recherche. Sur ces armes chimiques, ou des éléments de production de ces armes chimiques, ces éléments qui manifestent cette infraction au droit international ont été neutralisés.
Oui, mais c'est un acte militaire, vous êtes d'accord, sur un territoire identifié d'un État qui jusqu'à maintenant est souverain.
On ne vise pas des forces armées, on ne vise certainement pas des populations.
Mais je me bornais juste à souligner
des sites de production, et il a dit qu'ils avaient neutralisé.
Pas l'air convaincu de l'efficacité. Après, c'était intéressant parce qu'il revenait, vous parliez de morale géopolitique. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas un oxymoron,
vous inventez l'expression.
Mais pourquoi pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'il resituait ça dans un contexte géopolitique plus large. Il a beaucoup parlé de l'Iran et de la Russie. D'ailleurs, sans avoir de recul critique par rapport au choix de la France ces dernières années sur le fait de privilégier systématiquement le côté sunnite par rapport au côté chiite, de rompre avec la politique traditionnelle de la France, on va dire gaulo-mitterrandienne, qui était quand même d'équilibre entre l'Est et l'Ouest et compagnie. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il faut une solution politique, et en même temps, il n'en esquissait pas vraiment les contours. C'est en ça que c'était décevant sur une question qui, là, pour le coup, intéressait tout le monde, parce que quand on engage les forces armées françaises sur une opération extérieure, les gens ils ont envie de savoir pourquoi on le fait et quel est l'objectif ultime, bien sûr.
On a le sentiment que c'est un peu une opération de communication qui est destinée à faire croire qu'il est dans le jeu international, alors que la France en Syrie n'est pas du tout dans le jeu. En réalité, on a ces dernières années, la France est caractérisée par des atermoiements et des ambiguïtés en permanence, y compris avec des groupes rebelles islamistes qui n'ont absolument rien à envier en sauvagerie à Daesh. Et finalement, la grande nation qui a tiré son épingle du jeu là-bas, c'est la Russie, qui a une position claire et nette en intervenant et en éradiquant l'État islamique aujourd'hui en Syrie.
Et en étant aux côtés de Bachar al-Assad.
J'ajouterais, il y a quand même un argument très important, c'est qu'aujourd'hui, 95% du territoire syrien est libéré de Daesh et la Ghouta a été entièrement libérée des groupes islamistes. Donc quel aurait été l'intérêt de Bachar el-Assad de commettre une attaque chimique à ce moment-là? On voit absolument.
Donc vous n'y croyez toujours pas à l'attaque chimique?
En effet, et puis comme le fait qu'on n'apporte aucune preuve, aucun élément de preuve, ne me pousse pas à y croire, en effet.
Laetitia Avia, selon vous, quel était l'objectif de cet entretien d'hier soir? Parce que, en effet, Emmanuel Macron n'a rien annoncé. Est-ce qu'il est venu expliquer ou est-ce qu'il est venu justifier sa politique? Parce que, voilà, il assume les bombardements en Syrie, il assume l'effort demandé aux retraités, il assume l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Au fond, est-ce qu'il n'est pas venu dire « j'assume tout ce que je fais » ?
Est-ce que les deux ne vont pas ensemble? Est-ce que l'explication ne justifie pas la politique? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a, avec l'ensemble des sujets dont tout n'a pas pu être abordé, mais c'est qu'il a montré à chaque fois quelle était la logique derrière l'ensemble de ces éléments.
On pourrait aussi s'attendre, par exemple, après un an, à ce qu'il dise « j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, je vais en tenir compte de telle ou telle manière ». Ça n'a pas été le cas.
Vous savez, je ne sais pas s'il l'a dit explicitement durant cet entretien, mais ce que l'on ressentait souvent lorsque notamment Jean-Jacques Bourdin, mais également Edith Plenel, essayaient de lui apprendre des choses, c'est que bien sûr qu'il était au courant. On ne peut pas dire au président de la République, est-ce que vous savez ce que les retraités pensent? Est-ce que vous savez savez ce que les cheminots pensent. Mais bien sûr que oui, il le sait, il l'entend tous les jours. C'est la personne même qui a la vision la plus à 360 degrés de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Il est au courant de tout cela. Mais il a un cap, il sait pourquoi est-ce que chacune des mesures est prise. Et cette politique que nous menons, c'est une politique qui est équilibrée. C'est pas une politique sur laquelle on va pouvoir se dire, bon ben on va renier sur tel élément et tel autre pour faire plaisir à tel corps intermédiaire ou à tel autre, puisque cette politique ensemble remet la société en marche. Je voudrais quand même revenir très rapidement hein, sur les propos que j'ai entendus tout à l'heure sur la Syrie. Il y a un moment, il faut se dire que lorsque l'on est une puissance...
On est passé à autre chose, ouais.
Mais je voudrais tout de même dire ce que j'entends parler d'opérations de communication, de légitimité. Il fallait mettre un terme à cette escalade. On ne peut pas dire qu'on fixe une ligne rouge et ne rien faire lorsque cette ligne rouge est franchie. Et ça, c'est important également dans notre position diplomatique et dans toutes les discussions géopolitiques à venir.
Emmanuel Morel, sur ce que je demandais à Laetitia Avia, au fond, sur justification, j'assume, quel était selon vous l'objectif recherché par Emmanuel Macron?
L'objectif recherché, c'est à partir du moment où il y a une telle contestation qui s'exprime dans le pays, avec une bataille sociale majeure sur notamment la SNCF.
Alors il a dit qu'il n'y avait pas de coagulation des mécontents.
Mais justement, s'il vient, c'est parce qu'il a peur qu'il y ait une coagulation et il veut essayer de prévenir ce mouvement qui, à mon avis, était inéluctable compte tenu des mécontentements, mais compte tenu surtout de l'absence de réponse. Parce que moi, j'étais frappé quand même. Emmanuel Macron, il a beaucoup de talent, mais quand même, il a un manque d'empathie. Qui est visible, quoi, et un manque d'écoute. Et sur la plupart des sujets, la seule fois où on l'a trouvé empathique et où il était très nuancé, c'était sur la question des évadés fiscaux. J'étais frappé de voir que sur cette question, après avoir longuement disserté sur la différence entre optimisation et évasion fiscale, il justifiait sa quasi-suppression de l'ISF et la flat tax sur les revenus financiers en disant, mais vous comprenez, moi, tous ces gens qui prennent des risques, je veux les garder en France. Là, on avait l'impression qu'il connaissait
le
sujet.
C'est le président des riches.
Écoutez, je pense qu'il ne pourra pas échapper à ce que lui croit être une caricature, parce que de fait, les mesures qu'il a prises au tout début de son quinquennat, à une sorte d'acte inaugural, sont quand même des mesures au profit des plus riches. Et il y avait une sorte de pensée paradoxale tout le long des missions, où il disait à chaque fois dans la même phrase, tout et son contraire. J'aime le service public, c'est la raison pour laquelle je démantèle. Je demande des sacrifices aux plus pauvres, mais par contre aux plus riches, je leur ai fait un cadeau dès que je suis arrivé, parce que c'est bon pour l'économie. Et ça fonctionnait comme ça. Alors évidemment, c'est normal que, et sur les retraités, franchement, là pour le coup, Bourdin avait raison de le pousser dans ses retranchements, parce que ça correspond. Ce ne sont pas les retraités riches aujourd'hui qui doivent payer davantage de CSG, ce sont les retraités modestes. Et là-dessus, à part dire je leur demande des sacrifices, alors qu'une minute avant, il avait expliqué qu'il avait supprimé l'ISF parce que justement, il voulait que les riches restent riches en France et que, même s'il ne croit pas à la théorie du ruissellement, il y avait quand même cette idée que ça allait être bon pour l'économie. Sur les retraités, je l'ai trouvé quand même singulièrement faible dans ses réponses.
Nicolas Bay pour le Front National. Est-ce que vous croyez à la coagulation des mécontentement?
Oui, enfin en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une indignation, une inquiétude, de la colère qui est très importante aujourd'hui dans notre pays. Et on a le sentiment que Emmanuel Macron est assez sourd à cette colère. On a eu le sentiment hier soir qu'il était assez entêté, assez. Il y a même une forme d'arrogance, il faut bien le dire, chez lui, d'affirmation d'un certain nombre de choses, de ses orientations politiques, sans du tout tenir compte de la défiance dont cette politique fait l'objet de la part de beaucoup de nos compatriotes. Et puis il les a.
Mais s'il changeait de politique, vous l'accuseriez de changer de cap alors qu'il avait un programme.
S'il changeait de politique en tenant compte des préoccupations des Français, moi j'applaudirais, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Ça fait un an qu'il mène une politique où les classes populaires et les classes moyennes sont les grandes victimes. Il augmente la pression fiscale, 4,5 milliards d'impôts supplémentaires pour 2018, qui frappe durement les classes populaires et les classes moyennes. Il a augmenté la CSG, ce qui frappe durement nos anciens. Il favorise ceux qui ont une conception purement financière de l'économie au détriment de l'économie réelle. Tout ça, ça fait souffrir la France et il n'a pas du tout l'intention d'en changer. Il va continuer. Même sur la taxe d'habitation, il a énormément communiqué abondamment depuis maintenant près d'un an sur cette suppression partielle de la taxe d'habitation. On a compris hier en filigrane qu'on aurait en compensation une augmentation de la taxe foncière, ce qui permettrait de maintenir grosso modo les dotations aux collectivités territoriales. Donc tout ça est évidemment très inquiétant, c'est évidemment les Français qui vont continuer à payer. Et puis il y a un problème de fond derrière, c'est que quand on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé que jamais la France n'a eu dans son histoire, il faudrait en contrepartie que l'action publique soit là. Or elle n'est pas là. C'est le désengagement total, la dérégulation, la suppression des protections. Pour se conformer aux exigences de Bruxelles, il veut aller toujours plus loin. Et d'ailleurs, sur l'Union européenne, je termine là-dessus si vous permettez, à la fin de l'émission, il a dit clairement les choses. Il méprise ceux qui veulent relever le défi de l'identité, les nations, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. Et puis il dit, voilà, maintenant on va faire l'Union européenne entre nous, avec ceux qui veulent avancer, dit-il, pour reprendre son expression. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont soumis à ce modèle mondialiste ultralibéral que lui et Mme Merkel veulent défendre.
Donc, les gouvernements hongrois et polonais sont vos modèles.
Non, je dis pas que c'est modèle, mais je dis que les préoccupations de ces peuples, de défendre leur identité, de refuser les quotas de migrants et de ne pas céder aux exigences de la Commission européenne, ça doit être respecté, d'autant plus que le suffrage universel dans ces pays-là a parlé et qu'il y a des majorités extrêmement claires qui se sont dégagées.
Non, mais vous êtes en train de dire...
L'échange entre Emmanuel Morel et Nicolas Bay,
clairement, voilà. Mais ça ne m'étonne pas du Front National, mais quand même, le gouvernement d'Orban ou le gouvernement polonais qui tourne le dos pas seulement à la construction européenne, c'est pas ça le problème, mais aux valeurs fondamentales.
Mais quelles valeurs fondamentales
la liberté de la presse.
Mais vous croyez
que la liberté des magistrats.
Vous, écoutez, enfin, on a eu une campagne présidentielle il y a un peu moins d'un an en France. Combien de médias.
Vous interrompez pas, on n'est pas chez Président
Lebon. Entre les deux tours de la présidentielle, l'immense majorité des médias ont soutenu la candidature d'Emmanuel Macron de manière souvent assez explicite.
On s'éloigne surtout un petit peu.
Honnêtement, je pense qu'on n'a pas beaucoup de leçons à donner en matière de liberté de la presse.
Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, on en est certain. Non, mais je note quand même que les exemples cités par M. Bay comme étant des modèles d'indépendance nationale, c'est la Hongrie, la Pologne. Quand on voit
ces pays, l'Italie, l'Italie,
attendez, s'il vous plaît. Emmanuel Macron, hier, a dit que la fiscalité n'augmenterait pas pendant le quinquennat, mais c'est déjà fait, notamment pour les retraités.
Ce n'est pas une augmentation de la CSG pour les retraités.
Pour
c'est
une augmentation générale des retraités.
Non, mais c'est une augmentation de la CSG généralisée. Et pourquoi ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas. Parce que j'entends souvent, on augmente la CSG des retraités. Non, c'est on augmente la CSG de tout le monde. Pourquoi ? Parce que on supprime ces cotisations salariales, parce que on augmente
les
salaires nets.
Mais je pense que c'est important.
C'est pas compensé, c'est dans ce sens-là. C'est que d'abord,
je vous ai laissé
propager vos propos caricaturaux. Donc moi, je vais peut-être rétablir un peu la vérité. L'origine de ces mesures, c'est quoi ? C'est d'augmenter le salaire net des travailleurs. C'est ça l'élément le plus important. Et lorsque vous me disiez tout à l'heure que vous sentez de l'empathie uniquement lorsqu'il parle de mesures fiscales, je vous dis, on n'a pas du tout regardé le même entretien. Lorsqu'Emmanuel Macron rappelle tout son engagement pour l'éducation, ce dédoublement des classes de CP, tout ce que l'on porte en matière d'émancipation des plus vulnérables, tout ce que l'on porte également en ce qui concerne les jeunes des quartiers populaires.
On ferme les classes dans les zones rurales et on dédouble les classes dans les quartiers...
Faux, encore et toujours, on a 20 000 élèves en moins dans les classes rurales cette année, et on a pourtant 1000 classes ouvertes en plus.
Combien de classes ont été fermées en zone rurale
en zone rurale qui est bien plus important que sur le reste du pays.
Il y a des centaines de classes fermées en zone rurale.
Il y aura toujours des suppressions de classes. Oui, parce que ce sont des phénomènes démographiques.
C'est pas ça, c'est que vous voulez simplement abandonner totalement la ruralité française en supprimant les services publics dont l'école fait partie en zone rurale.
Et c'est exactement ça. Vous parliez tout à l'heure de cette coagulation éventuelle.
C'est ça la
difficulté, c'est qu'on a des personnes, notamment aux extrêmes, qui sont en train d'essayer d'instrumentaliser les colères. Des colères qui ne reposent absolument pas sur les mêmes éléments. Alors, moi, quand je vois défiler ensemble des fonctionnaires, des cheminots, des retraités, on voit très bien que la source de leurs difficultés est complètement différente. On a certains pour lesquels c'est une... Il y en a pour lesquels on est dans une réforme en cours. Il y en a pour lesquels, lorsqu'on a par exemple les étudiants, on est sur une crainte et des craintes qui ne sont pas justifiées quand on regarde par rapport au reste. On est sur certains parce que
Le
point commun, c'est que entre toutes ces catégories, c'est qu'on est en train de ponctionner du pouvoir d'achat. C'est le cas pour très clairement les retraités, c'est le cas pour une partie des salariés, c'est le cas pour c'est le cas aussi par rapport aux cheminots, parce que quelque chose de faux et d'archi faux qui a été dit hier, qui m'a choqué et qui, à mon avis, justifie le mécontentement, c'est quand Emmanuel Macron dit, mais finalement, il y a un lien très net entre la dette de la SNCF et le statut des cheminots. Tout le monde, même les économistes de droite, Même les journaux les plus orthodoxes d'un point de vue économique expliquent que ça n'a rien à voir, puisque la dette de la SCCF, c'est essentiellement des investissements, parfois d'ailleurs hasardeux, dans les 30 dernières années. Ça, il le fait au grand jour, c'est normal que ça suscite du mécontentement. Mais plus largement, pourquoi il y a une convergence de certaines luttes? C'est parce que le modèle d'Emmanuel Macron, c'est quand même la société de toutes les concurrences et de toutes les compétitions. Et Parcoursup, c'est ça, finalement, c'est la compétition entre les étudiants. Sur la SNCF, absolument, c'est la compétition entre le salarié du privé et le salarié du public. Emmanuel Macron lui-même est responsable de ça. Quand il va au salon de l'agriculture et qu'il dit à un agriculteur « Ah bah vous êtes beaucoup moins chanceux qu'un cheminot qui, lui, est un privilégié », évidemment qu'il donne cette impression de jouer des Français contre d'autres Français. Eh bien, à l'arrivée, il y a un mécontentement général. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait un mécontentement général.
Non, justement.
Très rapidement, on arrive vraiment au terme de cette émission.
Ce qu'il recherche, c'est de la cohésion. Et cette cohésion va vers quoi? Vers l'uniformisation des protections. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire sur l'ensemble de ce quinquennat.
Surtout de moins en moins de
protections. Il y a un sujet qui était totalement absent hier, c'était les questions régaliennes, où finalement, on voit qu'Emmanuel Macron, sa seule préoccupation, c'est de faciliter la vie des demandeurs d'asile sans tenir compte du fait que l'asile est devenu une filière à part entière d'immigration.
C'est tout le contraire dans le projet de loi de M.
Collomb. Il l'a expliqué d'ailleurs comme ça très bien. Il l'a expliqué hier que son but, c'est de faciliter les procédures d'asile.
Oui, mais la réalité du projet de loi, c'est que ça durcit.
Non, mais ça, vous tombez dans le piège d'Emmanuel Macron. Non, mais ça, c'est le piège. Vous tombez dans le piège d'Emmanuel Macron qui voudrait faire croire qu'il va faire preuve de fermeté en matière migratoire.
C'est juste que j'ai lu le texte.
C'est exactement le contraire.
C'est juste que j'ai lu le texte. Et le débat, c'est tout à l'heure à l'Assemblée qui commence.